Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde encore une fois en cette journée. D'une même voix, d'une unique voix, ensemble, nous allons élever nos voix pour chanter des chants d'adoration en rendant à Dieu des actions de grâce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui assure le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire, et oui, et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône, à haut et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Oh, nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le. Magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh. Quand je regarde les montagnes, ah, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Adorable Père, nous te bénissons, nous t'élevons, ô roi des rois, tu es le Dieu des cieux, tu ne changes point. Tu es l'indomptable, tu es le grand, le plus grand roi. Nous te disons merci encore de nous avoir accordé cette opportunité de méditer ta parole. Tu as dit à ta parole de la méditer jour et nuit, afin que nous connaissions du progrès, de la réussite dans tout ce que nous aurions à entreprendre. Oui, nous croyons que nous allons posséder les terres promises, ce que tu nous as promis, par en méditant jour et nuit ta parole et en la mettant en pratique. Nous te bénissons alors que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle et que toute la gloire que te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Tu es glorieux, tu es miséricordieux, tu es béni. Nous te bénissons, nous bénissons ton, nous t'exaltons, nous t'élevons à jamais. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette journée, suivons la procédure de la méditation quotidienne dans le Nouveau Testament. Nous méditons selon l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2, du 1er au 20e verset. Amen. Du 1er au 20e verset. Alors, les questions, qui nous dirigeons, qui nous guiderons en cette surnommée, dans cette méditation selon ce chapitre, sont les suivants. En première position, en première partie, de quoi nous parle ce chapitre, essentiellement le chapitre 2 de la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens? Et quelles sont les clés que nous retenons, ou bien que nous acquérons pour notre édification personnelle et pour l'agrandissement du royaume céleste ou bien du champ de Dieu? Et en seconde partie, nous aurions à parler de ce qui constitue la couronne de gloire du chrétien. Ce qui constitue la couronne de gloire pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui appartenons à Christ, pour nous qui décidons d'œuvrer pour Christ. Amen. Alors, quand nous prenons le chapitre en général, le chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, le chapitre nous parle principalement de comment l'apôtre Paul a exercé son ministère parmi les Thessaloniciens. Amen. De comment il a exercé son ministère parmi les Thessaloniciens. Et ensuite, quelle était l'attitude des Thessaloniciens lorsqu'ils écoutaient, bien ils attendaient la parole, ou bien lorsque la lettre parvint vers eux, ou bien lorsqu'ils reçurent ces écrits et ces paroles venant de l'apôtre Paul. Et en fin de compte, ce que l'apôtre Paul témoigne, ou bien l'espérance totale de l'apôtre Paul, voyant ces Thessaloniciens comme des âmes gagnées, leur considérant comme sa couronne de gloire, sa couronne de joie. Amen. Ainsi, bien-aimés, comment l'apôtre Paul a-t-il donc exercé son ministère? Il dit, dans le premier verset, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. » Donc ici, ce premier verset nous révèle déjà la situation que traversait l'apôtre, avant d'écrire cette lettre, ou bien avant de se rendre, ou bien de projeter de se rendre chez les Thessaloniciens. Amen. Il disait qu'ils étaient dans la souffrance. Déjà à Philippe, ils recevaient des outrages. Et là, notons que ces outrages ne parvenaient uniquement pas des païens, mais parvenaient aussi de ceux qui se disaient juifs, ou bien de ceux qui se disaient connaissant Dieu. Mais, quelle était sa force? Il prenait de l'assurance en Dieu qui l'a appelé, en Dieu qui lui a dit, va, tu es la lumière du fait que tu es la lumière des nations. Va et prêche la bonne nouvelle de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, suivant cet appel-là, puisqu'il a aussi dit qu'il n'a point honte de l'évangile et que c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit, pour lui d'abord, et pour tous les juifs et pour les païens, pour le grec également, il s'appuyait, il mettait son assurance en son Dieu qui lui a appelé. Donc, nous retenons que une des forces de l'apôtre Paul, à part le Saint-Esprit, le don de tous les mystères qu'il avait, il mettait son assurance à Dieu. Il mettait son assurance à Dieu. Amen. Donc, malgré le bon nombre de combats dans lesquels il était, toute son assurance était en Dieu. Donc, ce qui lui permettait de pouvoir toujours continuer par œuvrer pour l'évangile, à part annoncer l'évangile très saint. Donc, il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Nous voyons, étant donné que son assurance était basée, se reposait sur Dieu qui l'a appelé, donc il prenait soin de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, de prêcher Jésus-Christ, de prêcher la venue de Jésus sur cette terre, l'œuvre salvatrice, ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce que nous donne la résurrection de Jésus, ce que nous sommes devenus, nous qui sommes créés, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont ces mystères-là, le mystère caché de tous les temps, Christ révélé à la fin des temps. Ce mystère-là, c'est ce qui prenait soin de prêcher. Donc, c'est ce qui constitue en fait son évangile.
Donc, son évangile ne reposait pas sur l'erreur, sur la médisance, ni sur la fraude. Mais il se reposait sur l'efficacité de la parole. Amen. Il se reposait sur Christ, sur la puissance de l'évangile. Il dit, jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons reçu et cela ne nous a pas été donné? Alors, si cela nous a été donné, pourquoi est-ce que nous nous glorifions? Pourquoi est-ce que nous nous glorifions, bien-aimés? Si cela nous a été donné, pourquoi est-ce que nous nous glorifions? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 3, la Bible dit que c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Lui, jamais. Qui jamais fait le service militaire à ses propres faits? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du fait du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent telles que les usages des hommes. La loi lui dit, telle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amanceras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Donc, considérant ce que c'était de la loi, mais il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Annoncer l'évangile pour l'apôtre Paul n'était pas pour lui un sujet de gloire, mais c'était pour lui plus qu'une nécessité. Et dit malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Alors, comment en résumé? Nous pouvons dire que l'apôtre Paul et ses collaborateurs avaient une conduite sainte, juste et irréprochable au milieu des Thessaloniciens, dans leur ministère parmi les Thessaloniciens. Alors pour nous qui sommes appelés par Dieu, étant prédestinés pour de bonnes œuvres, nous devons avoir une conduite d'abord sainte, une conduite juste et irréprochable. Exhortant et consolant et conjurant aux autres de marcher et nous-mêmes de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Maintenant, bien-aimés, quelle était l'attitude des Thessaloniciens lorsqu'ils recevaient la parole? Dans le verset 14, la Bible dit, l'apôtre Paul écrit, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. » Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Le verset 13 dit que c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme une parole venant des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient, qui agit en vous qui croyez. Donc, la parole de Dieu, les Thessaloniciens ne le recevaient pas comme une parole qui venait des hommes, mais ils le recevaient comme une parole venant de Dieu, comme la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu est plus qu'un marteau. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, quand nous croyons à la parole de Dieu et à son efficacité, qu'elle vient de Dieu, nous recevons certainement ces fruits, bien l'impact de cette parole dans notre vie. Car parce que la Bible dit que la parole agit en nous qui croyons. Amen. Alors, bien-aimés, la Bible, Jésus-Christ dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Cela pourquoi? Parce que cela constitue en fait notre couronne de gloire. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'est désormais réservée. Pas non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. À ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, puisque la Bible dit que Dieu est toujours use de patience afin que tout soit sauvé. Nous devons nous lever, aller de faire, de partir leur homme de Dieu, afin que le camp de Dieu soit beaucoup plus élargi et que le camp du diable soit diminué. Amen. Même vidé, que l'enfer soit vidé et que le royaume de Dieu soit rempli. Amen. Alors, bien aimé, notre pour ce qui constitue notre couronne de gloire, c'est quoi? C'est les âmes que nous gagnerons pour le Seigneur. Amen. C'est avec ça que nous rendons compte. Quelle est l'œuvre que nous faisons? C'est ce qui constituera notre couronne de gloire. Donc, notre couronne de gloire et de joie, notre gloire et notre joie, ce sont ces âmes-là à qui nous prêchons l'évangile. Nous sommes les sentinelles qui veillent sur ces âmes, qui veillent sur ces âmes. Alors que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il fasse de nous ce qu'il veut pour la gloire de son nom. Père, nous te rendons grâce pour ta miséricorde, pour ta paix. Reçois la gloire infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen, amen.